Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, les frappes aériennes au Tchad, la France est-elle l'alliée indéfectible d'Idriss Déby ?
Oui, la France qui a apporté au président tchadien sa puissance de feu la semaine dernière en bombardant à plusieurs reprises des colonnes de pick-up entrées au Tchad par le nord, par la Libye. Les Mirage 2000 ont détruit une vingtaine de ces véhicules, lesquels peuvent convoyer une dizaine de combattants chacun, selon en tout cas une source militaire citée par le journal Le Monde. Qui sont ces combattants? Des hommes de l'Union des Forces de la Résistance, l'UFR, déjà à l'origine d'une tentative de putsch en 2008, stoppée in extremis aux portes du palais présidentiel, grâce d'ailleurs à l'appui de l'allié français. Ils sont emmenés par le neveu d'Idriss Déby et composés de combattants Zagawa, l'ethnie du président. Pour justifier cette intervention militaire, le Premier ministre français Édouard Philippe a invoqué l'article 35 de la Constitution devant les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. C'est parce qu'Idriss Déby a demandé assistance que la France est entrée en jeu, comme le prévoit, dit-il, un accord de coopération militaire technique qui remonte à 1976. Bonjour Roland Marchal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chargé de recherche au CNRS et basé au laboratoire du Centre de Recherche International, le CERI Sciences Po. Vos recherches portent sur l'économie et les conflits dans l'Afrique subsaharienne. Roland Marchal, ces combattants dont la France a aidé le régime tchadien à se débarrasser, en tout cas pour partie, terroristes ou opposants?
Écoutez, opposants, on ne sait... Enfin, on peut évidemment, après le 11 septembre, on a vu un certain nombre de régimes en Afrique commencer à qualifier leurs opposants politiques, armés ou civils, de terroristes. Au Tchad, ça a été relativement tard, ça a été après la normalisation qui s'est produite en 2009 avec le Soudan et qui a permis donc d'éteindre largement un épisode particulièrement dangereux de soulèvement armé dans l'est du pays. Et depuis cette date-là, effectivement, tous les opposants armés sont qualifiés de terroristes. Je crois que après, il faut raison garder. L'UFR avait des contingents réfugiés en Libye qui travaillaient avec les milices islamistes de Misrata. Mais on est très loin de l'État islamique. On est face à des projets différents et qui sans doute mériteraient d'ailleurs des explications de la politique française, puisque d'un côté le gouvernement français soutient le gouvernement national libyen, de l'autre il soutient l'un de ses principaux opposants, le général Haftar, qui lui a une approche très laïque, très laïciste, et surtout a le soutien également d'Idriss Déby. On est dans une ambiguïté française en Libye, et d'une certaine façon, on est dans un simplisme français, dans un unilatéralisme français au Tchad.
Unilatéralisme que vous aviez bien décrit dans un rapport publié en 2015 sur le soutien inébranlable de la France à Idriss Déby. Vous n'avez, j'imagine, pas dû être surpris du côté complètement assumé de cette dernière intervention, même si Emmanuel Macron avait dit à un moment vouloir ériger pour principe la non-ingérence militaire dans les affaires politiques intérieures d'un pays africain.
Si, je suis surpris parce que, d'une certaine façon... peut-être par naïveté vis-à-vis de ma classe politique, je pense que tôt ou tard, il faudra bien que des hommes politiques français comprennent et admettent que, un, il faut définir les objectifs d'un soutien militaire comme celui qui a été donné au président Déby, puisqu'on l'a fait, on est intervenu de très nombreuses fois. À chaque fois, des promesses ont été faites sur des réformes internes, sur une amélioration de la gouvernance, sur une reconnaissance des droits politiques et des droits sociaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'on est très très loin du compte. Donc pourquoi intervenir quand le chef de l'État qu'on aide ne tient aucune des promesses qu'il a faites? Et je pensais que M. Macron serait un peu plus conséquent que ses prédécesseurs, dans la mesure où tout ce qui est dénoncé dans le cadre du Tchad fournit fondamentalement au Sahel les raisons pour lesquelles des populations optent pour le soutien au mouvement djihadiste. Alors, on pourrait se dire pourquoi soutenir les dirigeants qui créent les problèmes et qui fondent notre présence militaire au Sahel. Or, je vois que le président Macron est de ce point de vue-là encore plus naïf, si c'est le bon terme, que ses prédécesseurs. Et donc, j'ai une certaine inquiétude sur les enjeux réels de la France derrière le Tchad et au Sahel.
Dans lequel de ces trois courants de pensée que vous décriviez en 2015, vous placeriez le président français? Est-ce que c'est un réaliste parmi ceux qui pensent qu'il vaut mieux avoir Déby avec soi parce qu'au moins on le connaît? Un néoconservateur pour qui Déby est un rempart face au chaos libyen et au Soudan? Ou un admirateur d'Idriss Déby?
Écoutez, je ne sais pas, je crois que les relations, je crois que d'un côté, l'administration française, et notamment la présidence de la République, est très au fait de la réalité tchadienne, du fait que une très grande partie de la population est marginalisée, que le débat se tient à l'intérieur, je dirais pas simplement de la famille d'Idriss Déby, mais d'un petit groupe qui n'est pas seulement Zagawa, et que c'est une oligarchie militaire qui tient le pays, et avec comme fragilité très grande le fait que, bien sûr, on se déteste ardemment et que la seule unité est celle de Déby lui-même. Et le jour où Idriss Déby disparaît de ce paysage, que va-t-il se passer au Tchad? Dans quel état sera le Tchad? C'est des questions auxquelles n'importe quel état qui veut aider et apporter la stabilité au Sahel doit répondre. Or, les réponses françaises, pour l'instant, elles sont extraordinairement silencieuses. D'un autre côté, par rapport à d'autres dirigeants de la région, Idriss Déby a certainement des qualités qu'apprécie Emmanuel Macron. Il parle cash, il dit les choses comme elles sont, enfin, tous les cas comme il les voit. Il fait aussi ce qu'il dit, au moins jusqu'à un certain niveau, et il est prêt à discuter d'initiatives communes. Alors évidemment, tout ça est très cher, puisque la France est très généreuse vis-à-vis du Tchad officiel en termes d'aide, dont on ne sait pas très bien si ça aide réellement à limiter la crise sociale qui existe maintenant depuis de nombreuses années, depuis l'effondrement du cours du pétrole. Mais encore une fois, ce qu'on voit sur le moyen terme, c'est malgré, disons, cette nouvelle conscience des fragilités du Tchad, on voit une politique qui reste inchangée, une politique qui n'est que militaire, avec la France qui joue aussi un rôle moteur pour vis-à-vis d'autres institutions qui continuent à financer le régime tchadien qui est, disons, peu propice aux réformes. L'Union européenne, le FMI, à cause de l'influence que la France y dispose en ce moment, sont deux institutions qui jouent un rôle majeur dans la mitigation de la crise. Et c'est évidemment, encore une fois, positif d'un certain côté, puisqu'il ne faut surtout pas que le Tchad s'effondre, mais il faut que les populations vivent mieux et qu'elles aient le droit d'expression, des droits de vote qui soient réels et pas fictifs, comme on l'a vu depuis maintenant plus de 15 ans. Et de ce point de vue-là, la France est merveilleuse par son silence.
Alors justement, lutter contre le terrorisme en apportant pas seulement une réponse sécuritaire, mais aussi une réponse sociale de développement, ce sera au cœur du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre à Nouakchott en Mauritanie aujourd'hui. Pour l'instant, cette réflexion n'existe pas au Tchad. Idriss Déby n'a pas mené cette réflexion-là, n'a pas mené cette réforme.
Écoutez, si demain matin, il le faut, le président Déby organisera un grand colloque international. Si vous voulez, vous n'êtes pas en face d'un soudard, vous êtes en face d'un homme d'État qui est un militaire, qui a une pensée militaire, qui est très porté sur la résolution coercitive des crises sociales internes, mais qui est absolument pas un imbécile. Donc si demain il faut jouer une carte d'ouverture, faire des réunions, faire des colloques, inviter des personnalités ou des journalistes étrangers.
Il saura faire.
Regardez, on change, il le fera, il l'a déjà fait. Et la question qui se pose au Tchad, comme dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, c'est une fois qu'on a fait les belles déclarations, une fois qu'on a voté les bonnes lois, comment est-ce qu'on les met en œuvre et qui sont ceux qui sont les intouchables?
Pour conclure, Roland Marchal, en fait, de menaces sur le régime d'Idriss Déby, ces colonnes d'opposants qui ont été bombardées, elles représentaient quoi? Allez, une cinquantaine de pick-up. Idriss Déby a connu menaces bien plus grandes, notamment en 2006 et 2008, sans que la France ait à intervenir, disons, en puissance de feu. À l'époque, c'était un soutien surtout logistique et de renseignement. Est-ce à dire que le président tchadien est très affaibli aujourd'hui, et pas seulement à cause des 10 années qui se sont écoulées, pas seulement à cause de son âge?
Oui, enfin, je crois pas qu'il soit si affaibli que ça. Je crois surtout que le but de cette colonne militaire, c'est d'abord d'échapper à des combats qu'ils auraient perdus en Libye, et puis ensuite c'était essayer de constituer un petit noyau qui aurait servi à créer une coalition des mécontents. Et celle-ci aurait été, comme ça s'est passé dans les années 2000, extrêmement large, dans la mesure où il y a beaucoup de gens sont très, et y compris dans des groupes ethniques ou dans des groupes sociaux qui jouent un rôle important dans la stabilité du régime. Beaucoup de gens donc sont aujourd'hui extrêmement mécontents de la gestion et évidemment cherchent une alternative.
Merci Roland Marchal. Oui, je vous laisse finir.
Est-ce que ces fronts militaires sont réellement une alternative? Personnellement, j'en doute.
Merci beaucoup Roland Marchal d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chargé de recherche au CNRS et chercheur donc au CERI Sciences Po. Merci à vous.